Il est 7h30, soyez les bienvenus. Sans transition, les titres de votre journal local, présentés par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. À Tétiaroa, les performances du SWAC validées par la science. Nouvelles restrictions sur la vente d'alcool, les précisions dans quelques instants. Et puis enfin, Jason Mans se lance un nouveau défi, manger 100% local.
Et on commence au journal du côté de Tétiaroa où l'UPF veut prouver au monde le potentiel du SWAC.
Malgré ses 15 ans de recul au Fénois, la technologie de climatisation à l'eau de mer profonde peine à percer au niveau mondial. Pour l'y aider, l'université a lancé en partenariat avec l'hôtel Le Brando une étude qui vise à démontrer scientifiquement son efficacité à Tétiaroa. Les premières données confirment que le SWAC offre une efficacité énergétique de 5 à 20 fois supérieure à d'autres solutions de refroidissement. Écoutez Bruno Chevalreau, responsable de projet à TBSA.
Le but, c'est de démontrer de manière officielle et rigoureuse et donc de manière indépendante aussi parce qu'on est un organisme de recherche, donc que les performances sont particulièrement intéressantes, très supérieures à la climatisation conventionnelle. Ce message, il devra être porté à la communauté scientifique, ça c'est un premier point, mais il pourra être aussi porté à des donneurs d'ordre, des gens qui voudraient réaliser des installations et qui se posent la question de savoir quelle est la meilleure technologie.
Ausculter le SWAC, la spécialiste des énergies renouvelables en rêvait depuis au moins 10 ans. Il aura fallu du temps pour réunir les autorisations et financements pour le projet.
Par rapport à tous les procédés qui permettent de faire du froid dans les bâtiments, donc les procédés conventionnels, c'est les cycles à compression de vapeur, ou même les procédés avec des énergies renouvelables telles que la climatisation solaire, on est dans des valeurs de performance qui sont aux alentours de 5, alors qu'avec une technologie SWAC, on peut atteindre des valeurs qui sont beaucoup plus importantes, qui varient entre 20 jusqu'à des valeurs supérieures à 100. Donc c'est un saut en matière de performance énergétique qui est considérable et qu'il est important de valoriser.
Mais il y a quand même un problème mondial. La gourmandise des climatiseurs semble sans limite, comme le rappelle Franck Lucas, enseignant chercheur en génie des procédés et spécialiste des énergies renouvelables à l'UPF.
Donc on prévoit un triplement de la consommation électrique liée à la climatisation à l'échelle mondiale. Situation qui risque d'être bien pire dans les climats tropicaux où les besoins en climatisation sont beaucoup plus forts. Et voilà, nous, à l'échelle de la Polynésie, on est en premier lieu concerné. On a des démonstrateurs qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue scientifique. Donc notre mission, c'est de démontrer que la technologie pourra solutionner un problème qui paraît quand même assez inquiétant.
Des propos recueillis par Charlie Rény.
Un point sur les nouvelles réglementations avec une nouvelle restriction justement sur la vente d'alcool Wallis.
Comme annoncé la semaine dernière, le Conseil des ministres a pris hier un nouvel arrêté réglementant la vente d'alcool en Polynésie. Une décision qui fait suite à l'annulation par le tribunal administratif des premières restrictions imposées par le pays pendant la crise du Covid. Ainsi, sur l'ensemble du territoire, la vente des boissons alcooliques et boissons d'alimentation non réfrigérées est autorisée aux seuls horaires suivants, du lundi au vendredi de 8h à 18h, les samedis, dimanches et jours fériés de 8h à 12h. Par ailleurs, la vente de boissons alcooliques et de boissons d'alimentation réfrigérées est totalement interdite sur l'ensemble du territoire.
Transport aérien avec la reprise des vols réguliers inter-île aux îles sous le vent avec Tahiti Air Charter.
Et le Conseil des ministres a octroyé une licence d'exploitation aérienne à la SARL Tahiti Air Charter hier. Depuis la reprise des vols domestiques réguliers en 2020, la société a été fortement sollicitée par les maires pour l'exploitation de vols réguliers inter-île aux îles sous le vent. De plus, Tahiti Air Charter a récemment signé un contrat de délégation de services publics portant sur la desserte des îles de Wapo et de Wauka à partir de Nuku'iwa. L'opérateur proposera également certaines liaisons à partir de Hivaoa aux Marquises, toujours afin de favoriser la rentabilité de l'exploitation globale du réseau inter-île marquisien.
L'opération Bobcat à présent, l'histoire de Pola Pola, bientôt en réalité virtuelle.
Ah oui, quoi de mieux pour connaître l'histoire que de la vivre grâce à la réalité virtuelle augmentée. Les visiteurs se trouveront plongés dans les années 40 alors que Pola Pola était une base de ravitaillement américaine. En février 2022, dès la descente de l'avion, les touristes pourront suivre l'histoire d'un soldat américain de retour à Pola Pola, comme l'explique Jean-Christophe Shigetomi, président de l'association Mémoire Polynésienne.
Dès l'aérodrome de Bora Bora, c'est de pouvoir éventuellement y installer soit une frise, soit une fresque qui rappellerait que les deux pistes ont été construites par les CBs américains. Il y a bien sûr immédiatement un QR code qui est associé et de ce QR code, vous repartez dans le temps qui va vous amener à un teaser et par lequel on va vous expliquer comment a été construite donc cette piste, par qui, etc. Ça, c'est là ce que l'on appelle donc la réalité virtuelle. Mais ensuite, en termes de réalité augmentée, on peut aller beaucoup plus loin, d'accéder à plus, je dirais, d'informations.
La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont tendances, selon Jean-Christophe Chéguetomi. Il espère également développer le tourisme mémoriel et proposer ce genre de projet pour d'autres thèmes.
Sûr, c'est un laboratoire, c'est ce que l'on vise. Pour ne rien vous cacher, nous, le deuxième objectif qui est le nôtre, 2024, et nous sommes déjà sur le sujet, puisque ça fait déjà 3-4 ans que je travaille donc sur cette thématique, et bien sûr, c'est l'histoire du surf tahitien, pour pouvoir être prêt pour les Jeux Olympiques et pour en faire sa promotion à travers donc un musée virtuel du surf, à travers une exposition, à travers des relais, je dirais, donc QR code. Et là, bien sûr, après, ce type de laboratoire peut s'appliquer à toute thématique donnée.
Des propos recueillis par Lucie Rabréau.
Et on termine ce journal à 7h36 avec un mot sur l'écologie. Jason Mann se lance dans un nouveau défi, manger 100% local pendant un mois.
Ah oui, c'est dans la galère qu'on apprend le plus vite, explique Jason Mann, militant écologiste qui vient de se lancer dans un nouveau challenge, manger 100% local pendant un mois. La cohérence est une grande quête, explique-t-il sur les réseaux sociaux où il a décidé de partager son expérimentation. Écoutez-le au micro de Lucie Rabréau.
Vraiment, je cherche à me challenger moi-même, montrer que je suis capable de faire 100% local et d'être en cohérence avec ce que je dis, parce que c'est un grand discours que je porte de manger plus local pour moins dépendre de l'extérieur, pour notre autonomie et notre liberté. Et deuxièmement, c'est justement de partager ça, de sensibiliser à ce grand projet d'autonomie alimentaire et qu'on partage nos recettes, nos petites astuces et tout pour y aller tous ensemble, quoi. Je mangeais déjà pas mal local, donc pour moi il y a des choses qui sont très évidentes et très faciles, mais ce qui est difficile pour moi dans le cadre de ce challenge, c'est vraiment le côté partage, et du coup j'essaie de montrer des choses diversifiées, que ce soit pédagogique et tout.
Fini donc le poivre, le sel, le pain, l'huile d'olive. Il a déjà trouvé quelques alternatives. Les graines de papaye séchées pour faire du poivre, l'huile de coco à la place de l'huile d'olive. Quand on creuse bien, on trouve.
Ce que j'attends dans le challenge, c'est de pousser la réflexion intérieurement, de me poser des questions tout le temps sur qu'est-ce que je peux manger, comment je peux le cuisiner. Parce que dans le quotidien, on a tendance à plus trop se poser ces questions-là. Donc moi, je me pose cette question quotidiennement, du coup. Donc ça va me permettre de développer des recettes, développer des modes de cuisson, qu'est-ce qu'on peut manger, de planter plus peut-être, parce que je vais me rendre compte que j'ai pas assez dans mon fab. Et ça rejoint tous les enjeux environnementaux que je porte, c'est-à-dire que pour les crises environnementales, climatiques par exemple, manger, importer moins, ça implique moins de pollution. Pour le plastique aussi, quand ça sort de ton FAPU, il n'y a pas de plastique, tout se rejoint. Donc c'est tout à fait en cohérence avec mon combat.
Notez que Jason Mann va tenir un cahier pendant ce mois de test avec ses recettes, ses courses et le coût de ses repas. Voilà pour ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi.